commencer le sermon, j'aimerais donner un avertissement. J'avais parlé de nos étudiants de l'éducation vivante qui sont en présentiel ici à Charlotte. Donc, si cela vous fait réagir, vous devriez peut-être vous boucher les oreilles. J'ai récemment eu l'occasion de m'adresser à ces nouveaux étudiants pendant la période d'orientation. Nous avons ensuite discuté pendant 20 à 30 minutes, ce qui m'a beaucoup plu parce que j'aime toujours parler avec les jeunes et j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Plusieurs d'entre eux voulaient que je reconnaisse qu'il s'agissait de la meilleure classe de tous les temps. Ils voulaient savoir, ne pensez-vous pas que c'est le meilleur groupe ou que nous pensions que c'est la meilleure classe ou quoi que ce soit d'autre? Je suis d'accord pour dire que c'est une belle classe. Quand je dis belle, je ne parle pas nécessairement de l'apparence, mais du caractère ou du comportement en général. Je pense que c'est une très belle classe, mais nous en avons déjà eu d'autres auparavant. Ils ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous espérions au début. Mais ils ont un grand potentiel. Cela ne fait aucun doute et nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Ils ont bien commencé, je pense. Ils ont suivi l'orientation, je crois que la semaine dernière, ils ont eu des cours, ils ont commencé à travailler dans les divers départements du siège central. Mais je dirais qu'il est un peu prématuré d'affirmer qu'il s'agit de la meilleure classe de tous les temps. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ont-ils suffisamment d'ancienneté pour se comparer avec les classes précédentes? Si vous remontez à environ 7 ans, c'est-à-dire à la période où nous débutions l'éducation vivante, certains d'entre eux étaient assez jeunes à l'époque. Et comment peuvent-ils se comparer? Deuxièmement, est-il bon de se comparer entre nous? Voyons ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 10. Je pense que vous connaissez probablement ce verset, mais je vais quand même le lire, 2 Corinthiens 10, le verset 12. 2 Corinthiens 10 et le verset 12, il est dit, « Nous n'osons pas nous égaler » ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Je comprends que le contexte concerne l'Église et tout le reste, mais il s'agit d'un principe ici. Il n'est pas bon de se comparer entre nous. Je ne suis donc pas en train de critiquer ces étudiants. Je trouve cela un peu humoristique, bien qu'un peu prématuré. Mais je tenais à transmettre ces informations, car c'est probablement ce que j'aurais dû dire lorsqu'ils voulaient que je sois d'accord avec eux. Il y a une troisième raison, et je commencerai par 1 Roi 20, 1 Roi chapitre 20, à partir du verset 9. C'est à ce moment-là que Ben-Hadad, un païen de la Syrie, a décidé de s'emparer d'Israël. 1 Roi 20, versets 9 à 13. 1 Roi 20, versets 9 à 13. Verset 9. Il dit au messager de Ben-Hadad, « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, je le ferai. Mais pour cette chose, je ne puis pas le faire. » Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse à Ben-Hadad. Verset 10. Ben-Hadad envoya dire à Achab, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. » Et le roi d'Israël répondit, « Dis-lui, et c'est là l'essentiel, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Et le verset 12, lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était en train de boire avec les rois sous les tentes, dans le poste de commandement, et il dit à ses serviteurs, « Faites vos préparatifs. » Et ils firent le préparatif contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, qui d'ailleurs n'était pas un très bon roi, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Le point important ici, nous ne devons pas nous vanter comme quelqu'un qui revêt son armure, comme si nous l'enlevions. il y a un début et il y a une fin, et nous ne devrions pas mettre la charrue avant les bœufs. Reportons-nous à Ecclésiaste, Ecclésiaste 7, et le verset 1. C'est un verset qui, je pense, a laissé certaines personnes perplexes. La première partie est assez simple, Ecclésiaste 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Mais la seconde partie d'Ecclésiaste 7, 1 dit « Et le jour de la mort que le jour de la naissance ». N'est-il pas intéressant de constater que nous célébrons en grande pompe la naissance d'un enfant? Un enfant est né la semaine dernière et nous sommes très heureux pour la famille de Jaeger. Nous en avons eu un autre avant cela, ce qui donne l'impression que nous avons une explosion d'enfants ici, un baby boom, et c'est très bien. Et nous nous en réjouissons, n'est-ce pas? Et nous devrions le faire. Mais il est dit, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Pourquoi cela? Pourquoi le jour de la mort serait-il meilleur? Voyez-vous, c'est à ce moment-là que nous enlevons l'armure, pour ainsi dire. C'est la fin de l'histoire, pas le début. Lorsqu'un enfant naît, il a un grand potentiel. Mais il n'a encore rien fait, n'est-ce pas? Pourtant, à la fin de notre vie, lorsque nous approchons le terme de celle-ci, nous pouvons dire « Voici ce que j'ai accompli, voilà ce que j'ai fait. » Le jour de notre mort, si on a fait ce qui est juste, est un temps que Dieu considère comme très profitable. En d'autres termes, l'important n'est pas de savoir comment nous débutons, mais comment nous terminons. C'est ce que l'on constate avec de nombreux rois d'Israël et de Juda. Dans 1 Samuel 15, nous savons que Saül a commencé en étant très humble. Enfin, j'aime l'ancienne version de la King James anglaise, lorsqu'elle parle du moment où il voulait l'amener pour le proclamer roi. Elle dit qu'il se cachait parmi les choses. J'aime bien ce mot « chose ». Ce n'est pas l'équipement ou les bagages, comme le dit la nouvelle King James. Mais c'était les choses. C'est là qu'il se cachait. Mais voilà qu'on lui demande de partir en mission pour éliminer les Amalécites qui ont attaqué l'arrière-garde. M. Hernandez a parlé beaucoup des Amalécites, de leur caractère, de leur façon d'aborder les choses et de la raison pour laquelle Dieu était si fâché contre Amalek. Saül n'a pas réussi à s'acquitter de sa tâche. Dans 1 Samuel 15, verset 17, il est dit, 1 Samuel 15, verset 17, lorsque Samuel ici corrige Saül, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a fait roi d'Israël. Mais maintenant, au verset 25 et 26, il dit, « Maintenant je te prie, pardonne mon péché », ça c'est le verset 25, mais au verset 26, Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Il a peut-être bien commencé. C'était un bel et grand homme, et certainement un guerrier. Il avait tué ses milliers, ou il avait été impliqué dans cette affaire, qu'il l'ait fait personnellement ou qu'il l'ait fait avec ceux qui le suivaient. Et David, ses 10 000, nous connaissons bien ce refrain qui a valu à David tant d'ennuis. Mais Saül avait rejeté la parole de Dieu. Et Dieu l'avait rejeté lui. La façon dont il a commencé et la façon dont il a fini n'étaient pas identiques. Nous avons aussi l'exemple dans 1 Roi 11. Nous nous souvenons que Dieu est apparu en rêve à Salomon et lui a demandé « Que veux-tu que je te donne? » Et Salomon lui répondit « Je voudrais de la sagesse pour savoir comment juger ton peuple. » Dieu lui a donné non seulement de la sagesse, mais aussi de grandes richesses et bien d'autres choses encore. Mais ici, dans 1 Roi 11, commençons verset 1. 1 Roi 11, verset 1. « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il n'a pas respecté ce que Dieu lui avait dit. Et il avait 700 femmes. Certains jeunes hommes pensent que ce serait merveilleux. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une telle quantité d'estrogène serait un cauchemar qui dépasserait votre imagination. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la lecture de ce livre, car toutes ces femmes voulaient ceci ou cela. Il essaie de satisfaire toutes ces femmes. Et en essayant de les satisfaire, il rejeta ce que Dieu a dit. Verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. David a commis des erreurs, nous le savons. Mais David a au moins bien fini. Il a bien commencé, il a bien fini. Et la plupart du temps, entre les deux, il a bien agi. Mais Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Vous pouvez imaginer que s'il le faisait pour l'une d'entre elles, il devrait le faire pour toutes, sinon une serait mécontente et lui rendrait la vie misérable. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui était apparu en rêve, comme on le lit dans le contexte. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Voici donc un individu qui a très bien commencé, mais qui n'a pas bien fini. Tout comme Saül n'a pas bien fini. Et il y a d'autres rois dont on lit l'histoire qui ont bien commencé, mais dont l'orgueil ou la vanité ou quelque chose d'autre, des conseillers, peu importe, font qu'ils n'ont pas bien fini. Combien de personnes commencent leur voyage spirituel avec beaucoup d'enthousiasme et de zèle pour s'en éloigner par la suite? Je pense que ceux d'entre nous qui ont eu une longue expérience savent qu'il y a tellement de cas semblables que nous ne pourrions pas les nommer ni même les compter. Je pourrais revenir à l'ambassadeur collège et voir combien de personnes qui l'ont fréquenté, qui étaient enthousiastes à son sujet et qui l'aimaient à l'époque, et du jour au lendemain trouvent toutes sortes de problèmes. Ils ne peuvent pas s'en détacher. Ils ont leur forum, ils ne peuvent pas s'en détacher. Cela a eu un impact énorme sur leur vie. Mais ils trouvent des défauts à M. Armstrong, à l'Église et sur d'autres points, et ils se sont éloignés, bien plus que je ne pourrais les compter. Dans Matthieu 13, et le verset 20, nous avons la parabole du semeur, et nous avons la semence qui est jetée au bord du chemin. Et au verset 20 de Matthieu 13, il dit, « Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, donc c'est là où il y a un peu de terre, pas beaucoup, c'est surtout des endroits pierreux. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Au début, il est très heureux. » Combien de ces personnes ai-je connues au fil des ans? En fait, lorsque quelqu'un est trop enthousiaste à l'égard de la vérité, je m'inquiète parce que je pense à cela. Et c'est souvent ce qui se passe, mais pas toujours. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a ceux qui conservent ce zèle jusqu'au bout, et espérons-le, jusqu'à la fin. Verset 20, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, et il croit pour un temps, et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, souvent de la part des membres de la famille, il y trouve une occasion de chute. ou peut-être est-ce à cause d'un travail? Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. En d'autres termes, l'idée est qu'il s'agit d'un bon terrain dans l'ensemble, qui germe, qui commence à croître, mais que tous les soucis de ce monde commencent à l'envahir et que l'individu tombe. Puis nous avons le dernier groupe qui produit des fruits, certains 30, certains 60, certains 100 fois. Mais en y regardant de plus près, le premier groupe, qu'il fût enthousiaste ou non, a entendu la parole, et cela lui a peut-être semblé bon au début, mais la parole fut immédiatement enlevée. Puis il y en a d'autres qui, oui, ont un peu de racines, mais qui se dessèchent parce qu'ils n'ont pas un système de racines profond. Enfin, il y a ceux qui sont étouffés par les mauvaises herbes. Ainsi, les trois quarts des individus ici présents, les trois quarts des catégories commencent peut-être bien. C'est douteux pour la première, mais au moins deux des trois semblent bien démarrer et ils tombent. Encore une fois, ce n'est pas la façon dont nous commençons qui compte, mais la façon dont nous finissons. Tout ceci est une préparation au sujet principal d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de savoir si nous allons rester dans l'Église, mais le sujet principal d'aujourd'hui que je vais aborder est très pratique et concerne beaucoup d'entre nous dans cette salle. Il s'agit du mariage. Combien de couples se lancent dans le mariage en s'attendant à ce qu'il échoue? Je ne demanderai pas de lever la main. Je dirais simplement que je ne pense pas que beaucoup de gens s'engagent dans le mariage en pensant qu'il va échouer. Je pense que presque tout le monde s'engage dans le mariage en espérant qu'il durera toujours. Je me souviens lorsque j'étais encore au lycée, au secondaire, je suis tombé amoureux d'une jeune femme, pas mon épouse en passant, mais une autre personne. Nous nous écrivions des lettres d'amour et nous parlions de vieillir ensemble. Eh bien, je vous le dis, ce n'est pas une chose si formidable, si merveilleuse, quand on arrive à un certain âge. Vieillir n'est pas pour les âmes sensibles, comme on le dit, mais on n'a pas vraiment le choix. On finit par vieillir, on a des maux et des douleurs, on subit les aléas de la vie. Mais vous avez l'ambition de vivre avec cette personne pour toujours. Heureusement, comme elle n'était pas dans l'Église et que je n'étais pas de son avis, cette relation a pris fin. Et je suis très reconnaissant que nous ne nous soyons pas mariés, car cela aurait probablement été un désastre. Mais la plupart des gens se marient en s'attendant à ce que cela dure. En outre, de nombreuses personnes, peut-être pas la plupart, mais beaucoup, pensent que leur amour est le plus grand de tous ceux qui l'ont précédé. Ils pensent que les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre ont quelque chose d'unique. Ainsi, personne d'autre n'a jamais vécu cela. Et surtout, ils savent que papa et maman n'ont jamais vécu cela. Parce qu'ils les regardent aujourd'hui et que la situation est différente. Et quand les gens se disent « Papa et maman ne comprennent pas », je leur pose toujours la question « Comment êtes-vous arrivé dans ce monde ?» Mais c'est une autre histoire. Mais beaucoup se marient en pensant que les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre sont tout à fait uniques, que personne n'a jamais ressenti cela auparavant, certainement pas papa et maman. Et pourtant, comme nous le savons, un très grand pourcentage de mariages échoue. Un très grand pourcentage. Je ne suis pas ici pour culpabiliser ceux d'entre vous qui ont eu un mariage qui a échoué. Ce n'est pas le but. Ce que je veux dire, c'est que la façon dont vous commencez et la façon dont vous finissez sont souvent deux choses très différentes. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a ici un certain nombre de couples qui sont mariés depuis 30, 40, 50 ans et plus. Certains même depuis 60 ans et plus. Il est vraiment surprenant de voir combien de personnes dans l'Église ont été mariées aussi longtemps. Même dans le monde, il y a des gens qui ont réussi à faire fonctionner leur mariage, et c'est une chose merveilleuse. Mais malheureusement, trop de mariages ne fonctionnent pas. Les mariages de style, ils sont faits l'un pour l'autre. Lorsque les gens disent « Ah, c'est une relation qui a été faite au ciel », je trouve qu'ils finissent trop souvent en enfer. Il en est ainsi parce qu'ils n'ont pas une vision réaliste du mariage et des sentiments qu'ils éprouvent. Le mariage et la famille sont le sujet du sermon d'aujourd'hui. Pourquoi les mariages échouent-ils? Et surtout, que pouvez-vous faire pour préserver votre mariage et votre famille? Les points que je dois aborder ici sont très courants. Il n'y a rien de difficile. Ce sont des points très simples, mais très importants. Le titre du sermon est « Devenez sérieux à propos de votre mariage. Devenez sérieux à propos de votre mariage. » Parce que certaines personnes ont de sérieux problèmes de mariage, mais elles ne sont pas vraiment sérieuses pour changer ce qu'elles doivent changer. Le docteur Laura Schlesinger, dont certains d'entre vous ont entendu parler à la radio, a fait une très bonne remarque. Lorsque les gens viennent voir un conseiller, ils ne veulent pas vraiment changer, du moins l'écrasante majorité d'entre eux. Ce qu'ils recherchent, c'est de pouvoir se présenter devant un conseiller et d'obtenir de lui qu'il soit d'accord avec eux pour que leur conjoint change. Combien de fois, lorsque je parlais à des couples qui avaient des problèmes, je ne le fais plus beaucoup, mais je le faisais lorsque j'étais pasteur, je leur demandais, après toutes ces accusations, « Qui pouvez-vous changer? Jean, qui pouvez-vous changer? Marie, qui pouvez-vous changer? » Ils connaissent tous la bonne réponse. « Eh bien, moi. » Ils savent qu'ils ne peuvent pas changer l'autre personne. Mais il ne se passe généralement pas 60 secondes avant qu'ils ne se pointent à nouveau du doigt l'un et l'autre. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils ont, en tant qu'individus, des choses à changer. Remarquez que j'ai dit que le sermon portait sur le mariage et la famille. Pourquoi ai-je dit le mariage et la famille? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous et de votre conjoint. Le mariage implique souvent des enfants. Et c'est bien ainsi. Reportons-nous à Malachie chapitre 2. Nous lisons ce qui suit. Il est dit dans Malachie 2, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Dieu ne peut pas recevoir nos offrandes lorsque nous couvrons son autel de larmes, de pleurs et de cris. Verset 14. Et vous dites, pourquoi? Pour quelle raison? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et verset 15, dans la version Darby, dit, « Et un seul ne les a-t-il pas fait? Toutefois, il avait le reste de l'esprit. Et pourquoi ce seul a-t-il fait ainsi? Il cherchait une semence de Dieu. » Or, prenez garde à votre esprit et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse. Lorsque nous nous marions, nous avons des enfants. Nous avons l'obligation d'élever ces enfants dans une atmosphère divine. Par nos actes, par nos paroles, en nous séparant ou en agissant par traîtrise, nous faisons du tort à ces enfants. Trop souvent, pour quelqu'un qui prétend être un disciple de Dieu, lorsque les enfants voient ce qui se passe dans la relation de leurs parents, ils sont rebutés par tout cela. C'est souvent le cas. Je sais qu'il faut être deux pour danser le tango, je comprends cela. Et qu'il y a des situations sur lesquelles, en tant qu'individu, vous n'avez aucun contrôle. Mais en général, il y a de bonnes et de mauvaises choses de part et d'autre. Verset 16. car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Les gens qui sortent du mariage font certainement un grand péché dans ce sens. Gardez votre place ici et reportons-nous à Matthieu, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Mettez un marqueur dans votre Bible parce que nous allons revenir dans Malachie 2. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus disait donc, écoutez, si vous avez un problème avec votre frère, d'accord, appliquons-le à votre conjoint, quelqu'un qui est plus proche qu'un frère. Si vous avez un problème, résolvez-le et venez ensuite devant mon trône. Il n'y a rien de mal à prier pour que Dieu vous aide à résoudre ce problème. Si vous vous demandez ce que vous pouvez faire, c'est une des choses. Mais se plaindre à Dieu au sujet de votre conjoint, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Mais il dit, laissez votre offrande sur l'autel et résolvez le problème. Revenons à Malachie 2 et lisons à nouveau le verset 13. Nous l'avons lu précédemment. Verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Remarquez, il ne considère plus l'offrande. Il ne la reçoit plus avec bienveillance de vos mains. Jésus s'est inspiré de l'Ancien Testament pour beaucoup de choses qu'il a dites. Beaucoup de choses qu'il a dites. Il connaissait les mots, il les a inspirés à l'origine. Mais il a certainement un lien entre ce qu'il disait dans le Sermon sur la montagne au chapitre 5 de Matthieu et ce que nous lisons ici. Verset 13. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. C'est pourquoi il dit, regardez, résolvez le problème avec l'autre personne autant que vous le pouvez. Vous ne pouvez pas toujours le faire tout seul, mais vous faites votre part. Et ensuite, vous venez devant moi. Sinon, Dieu va-t-il entendre nos prières si nous n'avons pas la bonne attitude et la bonne approche? Voyons pourquoi les mariages échouent et ce que nous pouvons faire pour nous prémunir contre l'échec. Encore une fois, il s'agit de points très simples, mais je suis persuadé que chacun d'entre nous, et je m'adresse autant à moi-même qu'à n'importe qui d'autre, parce que ceux d'entre nous qui sont mariés ou qui espèrent se marier, ce sont des points auxquels nous devons penser et auxquels nous devons nous préparer. Pour certains d'entre nous, le premier point arrive trop tard. Mais il y a beaucoup de jeunes gens ici qui ne sont pas encore mariés ou de jeunes qui pensent au mariage. Et il est très important que nous comprenions le premier point. Le mariage commence vraiment avant que nous ne disions « je le veux ». Le mariage commence par les fréquentations. Et ce premier point est que nous devons construire sur de solides fondations. Parce que construire sur des fondations médiocres va semer les graines de futurs problèmes. Si vous construisez une maison et que vous ne bâtissez pas sur de très bonnes fondations, la maison peut sembler très bien au début. Mais des fissures commencent à apparaître. La maçonnerie commence à se fissurer. En peu de temps, de l'eau pénètre dans la maison. Vous devez avoir de bonnes fondations. Et trop souvent, dans le monde d'aujourd'hui en particulier, ainsi que tout au long de l'histoire de l'humanité, mais surtout dans le monde d'aujourd'hui, les gens construisent sur de mauvaises fondations. Il y a un certain nombre de points secondaires à ce sujet. Souvent, avec le recul, les gens se rendent compte que les personnes qui les aimaient le plus, la famille et les amis, leur ont envoyé des signaux d'alarme. Parfois, vous avez vu les signes avant-coureurs. Vous avez vu que cette personne avait un mauvais caractère ou que cette femme était d'une humeur changeante, parfois difficile à vivre. et qu'elle utilisait peut-être les émotions pour obtenir ce qu'elle voulait sur le plan psychologique. Ou encore qu'il fut vraiment agréable à fréquenter, mais qu'il ne pouvait pas garder un emploi, ou qu'il ne prenait pas la vie au sérieux. Il existe des signes avant-coureurs qui se manifestent souvent, et parfois, lorsque nous sommes dans une relation, il nous est difficile d'admettre que ces signes sont présents. Nous devrions les voir, mais parfois ce n'est pas le cas. Alors comment résoudre ce problème? Eh bien, la famille et les amis entrent en jeu. Reportons-nous à Proverbe 12. Proverbe 12 et le verset 15. Il est dit, au verset 15, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » L'insensé est celui qui a raison à ses propres yeux. Il sait tout mieux que quiconque. Il sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et c'est juste et bon. Mais il est dit, celui qui écoute les conseils est sage. Nous pouvons donc être fous ou sages. Mais lorsque nous rejetons les conseils, surtout lorsque ces conseils proviennent de plusieurs sources, et selon la qualité de cette source, bien sûr, lorsque nous les rejetons, nous posons de mauvaises fondations pour l'avenir. Lorsqu'on dit que 40 ou 50% des mariages échouent, il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Il s'agit tout simplement de rechercher notre propre volonté. Voici ce que je veux. Proverbe 19, verset 20. Proverbe 19, verset 20 nous dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction. Ce livre est destiné à nous donner de la sagesse, surtout pour les jeunes, les naïfs et les simples, afin de les rendre sages, et même pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés, afin de les rendre encore plus sages. C'est le but de ce livre. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Les choses peuvent donc bien commencer. Vous pouvez décider d'épouser qui vous voulez, même contre l'avis de vos amis et de votre famille. Parfois cela se produit, parfois non. Mais quand on va à l'encontre de tout cela, on peut bien commencer. Mais est-ce qu'on va être sage à la fin? Parce que le mariage peut bien commencer, mais c'est après les « je le veux », c'est après la lune de miel, c'est après la première ou les deux premières années, c'est peut-être quand les enfants arrivent ou quand les enfants partent, toutes ces choses commencent à s'effondrer autour de nous. Mais quand on est jeune, c'est ce qu'on veut et on le veut tout de suite. Nous ne pensons pas à l'avenir, mais l'avenir viendra. Sur notre site web, M. Lyons a publié aujourd'hui un commentaire sur le thème « Quand demain devient aujourd'hui » et « Quand aujourd'hui devient hier ». C'est un article intéressant. Il parle bien sûr du monde de demain que nous attendons avec impatience, mais les lendemains arrivent. Ils arrivent tôt ou tard. Ils arrivent. Il faut alors se demander où est-ce que je veux être dans un an? Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Où est-ce que je veux être dans 50 ans? Parce que c'est en posant de bonnes fondations, les fondations de la parole de Dieu, le respect des conseils, par exemple, que nous posons les bonnes fondations. Nous recevons une multitude de conseils, non seulement de nos pères et de nos amis, mais aussi de personnes plus âgées, de ministres, de parents. Vous avez l'exemple de Roboam, qui a écouté ses jeunes amis au lieu d'écouter les personnes plus âgées et plus sages. Et regardez ce que cela lui a coûté. Reportons-nous à Proverbe 27, au verset 9. Proverbe 27, verset 9. Il est dit, « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Ou, comme ici, le conseil de l'âme en anglais. Parfois, lorsque vous demandez à quelqu'un qui vous connaît bien ou qui connaît bien l'autre personne, il peut vous donner un conseil qui n'est peut-être pas celui que vous recherchez. Il faut espérer que les gens diront la vérité à leurs amis et n'essaieront pas seulement de les rendre heureux sur le moment, parce que nous voyons les choses à long terme. Notez Proverbe 23, car c'est vraiment le plus important, Proverbe 23, verset 22. Il dit, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » C'est intéressant. Votre père et votre mère. Votre père vous a engendré et votre mère vous a mis au monde. Et comme je le dis toujours à nos jeunes au camp et ailleurs, il n'y a personne sur cette terre. En particulier cette jolie petite fille au bout de la rue ou ce beau garçon là-bas qui vous aime autant que votre père et votre mère. Ils vous ont mis au monde. Ils ne veulent que votre bien. Et nous devons les écouter. Le conseil de l'Écriture, si l'on veut bâtir sur des fondations solides, est le suivant. Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Vous savez, je crois que je l'ai déjà mentionné, mais j'ai été très choqué au cours des dernières années de la vie de ma mère par certaines des choses qu'elle a dites et par sa perspicacité, non seulement sur mon caractère, mais aussi sur celui de ma sœur et tout simplement en général. Je me suis rendu compte qu'elle me connaissait vraiment. Nous avions été séparés pendant de nombreuses années, des décennies. Et j'étais entré dans l'Église et nous avions des désaccords à ce sujet. Elle n'était pas d'accord avec l'Église et ainsi de suite. Mais elle comprenait certaines choses à propos de mon caractère ou de mon manque de caractère qui m'ont en quelque sorte choqué. Mais lorsque vous élevez un enfant de la naissance à l'âge de 18 ans environ, vous voyez quel est son caractère. Parfois, lorsque nous sommes jeunes, nous nous disons « Papa et maman ne me connaissent pas » ou « Que savent-ils de cette situation ?» Ils en savent beaucoup sur ces choses. Et quand il s'agit d'amour, vous savez, ils ont déjà passé par là. Mais vous n'avez jamais été là où ils sont. Je n'essaie pas de m'en prendre aux jeunes, mais simplement de vous donner des pistes de réflexion. Et quand je dis les jeunes, cela s'applique aussi aux personnes plus âgées. En fait, lorsque j'étais un jeune ministre stagiaire et que nous devions conseiller des gens âgés, je pense qu'il s'agissait de veuves ou de veufs, je me disais, que puis-je dire à propos du mariage à quelqu'un qui a une cinquantaine d'années? Mais j'ai très vite appris que l'amour et ce que nous considérons comme tel rend les yeux aveugles. Même les personnes âgées sont aveuglées et ne parviennent pas à suivre ces principes pour obtenir de conseils avisés. Vous n'avez peut-être plus votre père ou votre mère, mais vous avez d'autres personnes, vous avez le ministère, vous avez des amis qui peuvent vous donner de sages conseils. La plupart des gens voient les signes avant-coureurs, mais ils les minimisent, pensant qu'ils peuvent changer l'autre personne ou qu'après le mariage, tout changera. Ces choses ne changent pas. Si elles changent, c'est dans la mauvaise direction. Alors pourquoi les gens ne voient-ils pas les signes avant-coureurs? Eh bien, trop souvent, ils ne préservent pas l'intimité jusqu'au moment du mariage. Ils s'impliquent physiquement, qu'il s'agisse d'une simple étreinte, d'un baiser ou d'autres choses encore, et le sang quitte alors leur cerveau. Ils ne voient plus clair. C'est déjà difficile de s'enticher de quelqu'un, mais dès que l'on passe à l'acte, les choses changent, et l'on ne voit plus toujours les choses comme on le devrait dans 1 Corinthiens 6. Nous sommes très familiers avec ce passage, je pense que nous le sommes, 1 Corinthiens 6. Et verset 18 nous dit, « Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Cela a de nombreuses applications, bien sûr. Revenez aux versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Un certain nombre de ces choses ont trait au péché sexuel, et d'autres sont mentionnés, les ivrognes, par exemple. Les gens qui se livrent à leur passion, d'une manière ou d'une autre, n'ont aucun contrôle sur leur passion, et cela les empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout le monde le fait. Tout le monde le fait et semble s'en sortir. Nous devons prendre du recul et réaliser que Dieu est très miséricordieux envers chacun d'entre nous. Il n'envoie pas un éclair lorsque vous commettez un péché. Du moins la plupart du temps. Je ne connais personne qui a été tué par un éclair. Dans la Bible, je connais des gens que la terre a engloutis, et oui, le feu venait de Dieu, dans d'autres exemples. Je suppose donc que la foudre, oui, si vous remontez à l'époque de l'Exode et par la suite, cela s'est produit. Mais je n'ai jamais connu personnellement quelqu'un qui a été frappé à mort parce qu'il ou elle avait commis un péché. J'ai connu quelques personnes qui ont été frappées par la foudre, à la distance. Pourtant, Dieu ne nous tue pas chaque fois que nous commettons une erreur, parce qu'il sait que la vie vous battra suffisamment. La vie elle-même. Ainsi, lorsque les gens posent de mauvaises fondations et s'entêtent à faire ce qu'ils veulent, Dieu leur dit, « D'accord, vous voulez le faire? » C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. « Vous voulez faire ce que vous voulez faire? Allez-y! » Ainsi, Dieu ne punit pas immédiatement les gens chaque fois qu'ils font quelque chose de mal. Il dit, « Je vais m'asseoir et laisser la vie faire les choses elle-même. » C'est la raison pour laquelle nous avons des divorces. C'est pourquoi nous avons des gens malheureux, parce que la vie elle-même a une façon de nous attendrir. Une autre raison pour laquelle les mariages ne durent pas ou ne durent pas longtemps est que les gens entrent dans le mariage avec les mauvais critères. Un autre aspect d'une mauvaise fondation est la recherche de mauvais critères en matière de mariage. Je dirais que dans l'esprit de beaucoup de gens, qu'ils soient jeunes ou vieux, le critère numéro un est la beauté physique de la personne. J'ai connu des hommes qui disaient, par exemple, « Il faut qu'elle soit blonde » ou « Il faut qu'elle soit sous un certain poids » ou d'autres critères de ce genre. Les femmes regardent cela et se disent « C'est tout ce que les hommes recherchent, la beauté. » Mais les femmes veulent quelqu'un qui soit plus grand qu'elles. C'est quelque chose que les gens regardent. Et pourtant, certains des meilleurs mariages que j'ai connus, de l'extérieur bien sûr, car je n'en suis pas sûr, concernaient des couples où l'homme était plus petit que la femme. Mais ils étaient follement amoureux l'un de l'autre et semblaient réussir à s'entendre. J'ai connu des gens qui ont épousé quelqu'un qui n'était peut-être pas un canon, une fille qui n'était pas un canon, mais ils ont réussi à le faire et ils s'aiment. Vous savez, il est intéressant de constater que d'après mon expérience, et c'est tout ce que je peux dire, mais je peux affirmer que d'autres ont exprimé la même chose, vous pouvez rencontrer, du point de vue d'un homme, une belle femme. Mais plus vous apprenez à la connaître, moins elle est belle. Et il y en a d'autres qui peuvent être tout à fait ordinaires. Elles n'ont pas une mauvaise apparence, mais elles sont simplement ordinaires. Et plus vous apprenez à la connaître, plus elles deviennent belles. Mais il y a aussi ceux qui ne donnent jamais à quelqu'un l'occasion de découvrir la beauté intérieure de la personne. Je voudrais que vous réfléchissiez un instant. Ceux d'entre vous qui sont jeunes, et encore une fois, je n'essaie pas du tout de m'en prendre aux jeunes, parce qu'avant la fin, nous allons parler de nous tous qui sommes mariés et de ce que nous faisons pour nos mariages. Mais je veux que nos jeunes regardent autour d'eux. Je veux que vous regardiez vos parents. Je veux que vous regardiez autour de vous les personnes qui ont l'âge de vos parents. Ne vous demandez-vous pas parfois comment se sont-ils mariés? Que voyaient-ils en elle ou que voyait-elle en lui? Il a une bedaine. Elle a peut-être 15 kilos de trop. Ses cheveux ne sont plus soignés. Et pourtant, il y a des gens qui appartiennent à ces catégories et qui sont heureux dans leur mariage. Je dois faire attention à ce que je dis ici. Je sais que je m'engage sur un terrain miné. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous pensez que votre apparence est éternelle, vous vous trompez. La jolie petite fille que vous voulez épouser ou le bel homme que vous voulez épouser ne le resteront pas toujours. Et si le mariage n'est qu'une question d'apparence, il ne durera jamais. J'ai connu des maris qui étaient durs avec leur femme parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle dépasse un certain poids. Je connais des femmes qui veulent que leur mari soit à leur image, pas nécessairement en termes d'apparence, mais dans d'autres domaines. Il faut y réfléchir. Le mariage est une affaire de longue haleine, à long terme. Le caractère est bien plus important que l'apparence extérieure. Reportons-nous à Proverbe 31. Proverbe 31. Je comprends qu'il doit y avoir une certaine attirance physique. Mais si vous regardez les choses du point de vue de la Bible, et les mariages arrangés, par exemple, ce n'était pas toujours une question d'apparence. En fait, ce n'était pas l'essentiel. Oui, l'apparence est importante. Mais dans Proverbe 31, verset 10, il est dit, Proverbe 31, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Or, une femme vertueuse ou forte. Et ensuite, vous lisez ici, vous lisez à propos de son caractère, son attention et son souci pour la famille. Il ne s'agit pas de vous dire que chaque femme devrait devenir agente immobilière. Non, il ne s'agit pas de savoir comment elle achète une propriété. Mais pourquoi? C'est pour la famille. Verset 23, son mari est considéré aux portes. Verset 24, elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Mais remarquez le verset 30. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. Oui, la beauté peut être présente au début, mais elle ne durera pas. Franchement, je trouve ma femme très belle. Elle n'aime pas que je dise cela. Elle va m'en vouloir. Mais je la trouve très belle. C'est vraiment le cas. Je le pense sincèrement. Et je pense que beaucoup de maris, ce n'est pas la plupart d'entre eux, pensent que leur femme est belle. Mais ils ont fini par voir plus que la simple façon dont la peau est tendue sur le corps. On en vient à voir un autre type de beauté. Mais je veux dire que même la beauté physique, je pense qu'elle est belle. Je me souviens que M. Armstrong a dit qu'il pensait qu'une femme était la plus belle entre Je crois qu'il avait dit 35 et 50 ans. Souvent, nous pensons qu'il s'agit d'une femme de 18 ans. Mais elles n'ont pas la maturité d'une femme plus âgée. Le caractère qui va de pair avec l'apparence extérieure. Pourquoi ne pensez-vous pas à ces choses? Parce qu'elles sont très importantes. Regardez autour de vous, car c'est votre avenir. Si vous voulez un bon mariage, commencez par le fonder sur la parole de Dieu et non sur les critères que le monde nous propose. Les valeurs morales ou l'absence de valeurs morales, le rejet des conseils, le mépris des parents et de leurs conseils, etc. Commencez par une bonne fondation. C'est essentiel. Il y a une autre raison pour laquelle les mariages échouent, et cela s'adresse davantage à nous tous dans cette salle. C'est l'égoïsme. L'égoïsme pur et simple est l'une des raisons de l'échec des mariages, dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Il est question d'individus qui intentent des procès à d'autres. 1 Corinthiens 6, verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Or, dans ce contexte, et au verset 7, il est dit, écoutez, laissez l'Église juger ses affaires. Il y a des choses que l'Église ne peut tout simplement pas traiter en raison de contraintes juridiques, comme les divorces et d'autres questions similaires. Mais il parle de juger diverses affaires. Supposons que vous ayez un différend avec votre conjoint. Voici quelques conseils. Il dit, verset 7, « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi, au lieu d'aller en justice, n'acceptez-vous pas le fait que vous allez prendre le plus petit bout du bâton? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? » Nous pouvons lire cela et l'examiner uniquement dans le contexte de la loi, mais qu'en est-il dans le contexte de la famille? Combien de fois acceptons-nous le fait que notre partenaire a raison? Ou permettons-nous simplement à notre partenaire d'avoir raison? Il n'y a pas que l'égoïsme qui entre en jeu. Et nous y reviendrons dans un instant. Regardons Philippiens chapitre 2. Car il nous montre l'attitude que nous devons avoir si nous voulons avoir un mariage vraiment heureux. Philippiens 2, versets 1 à 8. Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. C'est ainsi que nous devrions être dans le mariage, bien sûr. Mais comment s'en assurer? Il dit au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Regardons les autres comme étant au-dessus de nous. » Verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qu'en est-il des intérêts de notre conjoint? Qu'en est-il des intérêts de nos enfants? Nous devons également veiller à leurs intérêts. » Verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et il montre ensuite qu'il a donné sa vie. Verset 8. « Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est l'attitude que nous devrions avoir. Ayant l'apparence d'un homme, il s'est humilié. Or, si le Christ s'est abaissé, combien plus devons-nous nous abaisser nous-mêmes? Le problème est que ces mots sont faciles à dire, faciles à lire, facile à répéter, et que nous pensons « Oh, je peux le faire » ou « Je vais le faire » jusqu'à ce que le caoutchouc rencontre la route, jusqu'à ce qu'une situation se présente où nous devons l'appliquer. Et notre nature est telle que nous devons lutter contre cela, parce que notre nature est égoïste. Ma nature l'est, et la vôtre aussi. Mais certains peuvent être plus égoïstes que d'autres, mais nous avons tous cette tendance égocentrique. Cela m'amène à un autre point, l'orgueil. Reportons-nous à Proverbe 11. Proverbe 11. Voyez, c'est quelque chose qui doit être plus que des mots. Il faut que ce soit quelque chose qui fasse partie de nous, que nous intériorisons. Il nous est dit dans Proverbe 11, verset 2, « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Il faut donc opposer l'orgueil à l'humilité. L'un entraîne la honte. » Et parfois, nous laissons notre orgueil prendre le dessus. Et à la fin de la journée, nous avons honte de nous-mêmes. Je suppose qu'il y en a qui ne le sont jamais. Mais je pense que la plupart d'entre nous, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous le voyons. Mais la sagesse accompagne les humbles. Être sage, c'est être humble et de renoncer à l'orgueil, qui est de « je dois avoir raison ». Remarquez un autre passage des Écritures. Je ne donne pas toutes les Écritures sur le sujet, mais seulement quelques-unes pour chacun de ces points. Reportons-nous à Proverbe 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10, c'est tellement un point important. Verset 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Avez-vous des querelles dans votre foyer? Avez-vous des querelles au travail? Êtes-vous constamment en conflit avec les autres? Quelle en est la cause? Verset 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Lorsque vous êtes en conflit avec une autre personne, prenez le temps de vous mettre à genoux et de demander à Dieu de vous pardonner l'orgueil qui vous habite. Une autre raison de l'échec d'un mariage est tout simplement le refus d'accepter le rôle que Dieu a ordonné lors de la création. Revenons à Genèse chapitre 2. Car c'est Dieu qui a fixé les limites, c'est Dieu qui nous a créés, et c'est lui qui a déterminé les rôles de chacun. Marie, l'épouse, l'homme, la femme. Et au verset 20, il est dit, « Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un sommeil profond sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. » Parfois, les gens ne le font pas. Ils ont peur de quitter leur père et leur mère. Et parfois, cela fait obstacle à une relation. Verset 24. Et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est là qu'ils forment une nouvelle famille. Dans Éphésiens 5, et c'est l'instruction de Dieu, et on lit ceci dans nos cérémonies de mariage. Il est question de se soumettre l'un à l'autre. Verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a donc un moment où chacun se soumet à l'autre. Mais il est dit au verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous lisons dans le prophète Ésaïe que les enfants seront leurs oppresseurs et les femmes domineront sur nous. J'ai trouvé intéressant que lorsque quatre écoles de l'Ivy League ont été convoquées devant le Congrès américain pour expliquer les problèmes qu'elles rencontraient en matière d'antisémitisme, elles étaient toutes les quatre dirigées par des femmes. Toutes les quatre ont été contraintes de démissionner. Et au moins dans un cas que je connais, ont été remplacées par une autre femme. Je ne sais pas ce qu'il en est des trois autres. Mais il est vraiment surprenant de constater à quel point les femmes ont pris le contrôle de notre monde. Je ne sais pas du tout de dénigrer les femmes. Mais ce n'est pas la place que Dieu leur a réservée. Et pourtant, c'est notre monde, c'est notre culture. C'est ce que nos jeunes filles apprennent lorsqu'elles vont à l'école, que ce soit à l'école primaire, au lycée, au secondaire ou à l'université. Vous devez faire carrière. Vous devez être aussi bonne qu'un homme. Vous devez faire ce que les hommes font. Nous avons donc des femmes pilotes de chasse dans les guerres. En sont-elles capables? Oui, bien sûr. Je me souviens d'une fois où des jeunes parlaient d'une personne. Et l'un d'entre eux l'a très bien exprimé. Il a dit, « Cela ne me dérange pas d'épouser une femme qui peut porter le pantalon s'il le faut. Mais je ne veux pas avoir à me battre avec elle pour l'avoir tous les matins. » C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont toujours célibataires. Nous devons comprendre que l'approche de Dieu à l'égard des femmes et des hommes n'est pas celle de ce monde. Ce monde met tout sans dessus-dessous. Et cela ne marche pas. Cela ne fonctionne pas très bien. Les gens disent, les hommes ont foutu le monde en l'air, alors les femmes peuvent prendre le relais. Est-ce que ça s'améliore? Verset 22, « Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Alors, mesdames, êtes-vous prêtes à vous soumettre à l'homme que vous avez épousé? Peut-être, dites-vous, je ne respecte pas son jugement. Alors, pourquoi l'avez-vous épousé? Pourquoi l'avez-vous épousé? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme. » Le problème est que parfois, que ce soit les femmes ou les hommes, pensent de différentes façons. Ils supposent que cela signifie que l'amour se limite à la chambre à coucher. Non, ce n'est pas du tout ce qui est dit ici. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je me souviens d'une personne qui n'était pas dans l'Église, sa femme était dans l'Église, mais cette personne était absolument arrogante, qui pensait que sa femme devait vivre par les lois de Dieu, mais comme il n'était pas converti, il n'avait pas à le faire. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « ça ne va pas durer ». Je pourrais vouloir que ça dure, mais cela ne durera pas. Il y a des individus comme cela. Mais ce n'est généralement pas ce à quoi nous avons affaire. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il revient directement à la Genèse et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il ajoute, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Tel est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Il y a ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec cela. Il y a des femmes qui ne veulent tout simplement pas se soumettre à qui que ce soit? Eh bien, félicitations, parce que vous ne serez pas heureuse. Et il y a des hommes qui ont leurs problèmes et qui considèrent le mariage comme une occasion de régner d'une main de fer en gardant leur femme sous leur coupe. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu, ce n'est pas de l'amour. Aimer comme on aime son propre corps, c'est la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et si nous ne comprenons pas l'approche de Dieu à cet égard, comment pouvons-nous nous attendre à ce que notre mariage dure? J'ai un dernier point à soulever. Nous avons tous entendu dire que le mariage est une relation 50-50. Je pense que nous avons tous entendu cela. J'ai trouvé assez révolutionnaire d'entendre M. Armstrong dire « Ce n'est pas 50-50, c'est 100%, 100%. » Que voulait-il dire par cela? L'idée d'un mariage 50-50 signifie « Je ferai la moitié du chemin si tu fais la moitié du chemin. » Imaginez un terrain de football et la ligne des 50 verges. Vous commencez à votre poteau de but dans la zone des buts et vous dites « D'accord, je viendrai à la ligne des 50 verges si tu le fais aussi. » Le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'atteignent pas tout à fait la ligne des 50 verges, n'est-ce pas? Que se passe-t-il alors si vous arrivez à la ligne des 50 verges et que votre partenaire n'arrive qu'à la ligne des 48 verges? Ou pire encore, à la ligne des 40 verges ou des 30 verges? Que faites-vous à partir de ce moment? Ce que M. Armstrong voulait dire, c'était simplement ceci. Je ferai ma part, comme Dieu l'a établi dans Éphésiens et ailleurs. Je ferai ma part à 100%. J'aimerai ma femme. Je prendrai soin d'elle. Je la protégerai. Je la garderai. Je l'aimerai de toutes les manières. Je ferai tout cela, quoi qu'elle fasse en retour. La femme doit adopter la même approche. Voilà le rôle que Dieu m'a attribué et je vais le faire. La plupart du temps, nous ne le faisons pas parfaitement, n'est-ce pas? Je ne connais personne qui le fasse parfaitement. Mais si je suis prêt à aller jusqu'à la ligne des 70 verges, ou même jusqu'à la ligne des 30 verges à l'autre bout du terrain, si je suis prêt à aller au-delà de la ligne des 50 verges, et qu'elle est prête à faire sa part et à franchir la ligne des 50 verges, alors nous aurons une rencontre d'esprit et une rencontre de compréhension. Nous aurons quelque chose de réalisable. Mais si l'on se contente de dire « Je ferai ceci si tu fais cela » ou « Je ne vais pas plus loin », alors cela ne marchera jamais. On ne fait que de se pointer du doigt les uns les autres. « Si tu fais ceci, je ferai cela ». Et c'est généralement ce qui se passe pour les ministres qui ont affaire à des gens qui ont des problèmes de mariage. Ils pointent du doigt l'autre personne parce qu'ils se disent « il ne fait pas sa part » ou « elle ne fait pas sa part, alors pourquoi devrais-je faire la mienne ?» Ou encore « si cette personne changeait, tout irait pour le mieux. » Ce n'est pas comme ça que cela marche. Remarquez dans Romains chapitre 5, parce qu'il nous montre que ce n'est pas seulement en théorie. Mais en pratique, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est en fait ce que le Christ a fait pour vous et pour moi. Dans Romains 5, verset 5, Romains 5, verset 5, il dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Remarquez, il est mort pour nous, alors que nous étions sans force. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est allé jusqu'au bout. Il est mort pour toute l'humanité, mais combien de personnes méprisent son sacrifice? Il était prêt à faire cela en sachant que certains rejetteraient son sacrifice, continueraient à lui cracher dessus, à le frapper, et ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens incorrigibles et méchants. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il créés comme il l'a fait? Une grande partie du problème dans le mariage réside dans le fait que nous pensons différemment. Nous pensons vraiment différemment. Nous sommes faits très différemment. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il créés ainsi? Peut-être aurait-il dû faire en sorte que nous pensions tous de la même manière, que nous ayons tous les mêmes désirs physiques et émotionnels. La réponse est qu'il ne s'agit pas de l'instant présent et de votre bonheur immédiat. Il s'agit du long terme. Dieu a un plan à long terme en tête. Il a un grand projet pour l'humanité. Il n'a pas fait d'erreur en créant les différences entre les hommes et les femmes. J'aimerais vous lire un extrait de l'un de mes livres préférés, écrit par deux militants homosexuels, intitulé « After the Ball », publié en 1989. L'idée de base de ce livre était de vendre l'homosexualité au public américain. Tout de suite après, j'ai remarqué un changement. Je pensais que c'était dû au nouveau président. Mais c'était bien plus que cela. Ils ont mis en place un plan pour vendre leur mode de vie à la population américaine. Pas vraiment leur mode de vie, mais l'acceptation du fait qu'ils sont différents de cette manière. Les 100 dernières pages sont tellement révélatrices. J'aime les 100 dernières pages parce qu'elles ne sont que citation après citation qui confirment ce que nous croyons. On peut y lire « Les relations entre hommes gays ne durent généralement pas très longtemps. Pourtant, la plupart des homosexuels sont véritablement préoccupés par leur besoin de trouver un amant. En d'autres termes, tout le monde cherche, mais personne ne trouve. Comment expliquer ce paradoxe? Il est en partie dû aux caractéristiques de la physiologie et de la psychologie masculine, qui font qu'un couple sexuel et romantique d'un homme avec un homme est intrinsèquement moins stable qu'un couple d'un homme avec une femme. Et entre parenthèses, ils écrivent « Désolé si la vérité blesse ». C'est dans « After the Ball ». Il est difficile de se procurer un exemplaire de ce livre, mais nous devrions en avoir un exemplaire dans notre bibliothèque. Il est très, très révélateur. Il montre comment il vendait l'homosexualité. Puis les 100 dernières pages discutent des problèmes liés à leur mode de vie et des raisons pour lesquelles les choses doivent changer. Ils abordent même le sujet de la moralité au sein de leur groupe, bien qu'ils définissent la moralité de manière quelque peu différente. C'est très intéressant. Lorsque nous construisons sur des fondations défectueuses, lorsque l'orgueil, l'égoïsme et la rébellion contre le rôle que Dieu a pour nous entrent en jeu, ou lorsque nous attendons sur la ligne des 50 verges que l'autre personne nous rencontre, rien de tout cela ne reflète le plan de Dieu. Cela ne reflète pas le caractère de Dieu. En fin de compte, Dieu construit son caractère en nous. Quand nous y pensons, je veux lire ici en conclusion, juste avant la fin, dans Galates 5. Galates 5. C'est vraiment ce que Dieu essaie de faire. Il nous montre qu'il y a deux voies de vie. Galates 5, verset 19, que nous lisons fréquemment. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent, pratiquent de telles choses? Quoi donc? Les excès de colère, les ambitions égoïstes, les querelles, toutes ces choses-là, ceux qui commettent, pratiquent de telles choses. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais si c'est la manière dont nous vivons notre vie dans notre mariage, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Cela devient vraiment très sérieux. Je ne veux pas dire que si vous n'avez pas un mariage parfait, vous ne serez pas dans le royaume de Dieu, mais je dis qu'il est temps de prendre ces choses au sérieux, parce que le mariage est un terrain de choix sur lequel nous pouvons construire le caractère de Dieu. Ce n'est pas le seul endroit où nous pouvons construire le caractère de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas mariés, et ils peuvent quand même construire le caractère de Dieu. Mais si Dieu nous a bénis en nous donnant l'opportunité d'être mariés, nous ferions mieux de construire sur cette fondation, la fondation appropriée. L'enjeu du mariage va bien au-delà de cette vie. Dieu se sert du mariage et de la famille pour nous enseigner les principes fondamentaux de ce que signifie d'avoir le souci de l'autre, de s'intéresser à son intérêt et au bien-être d'un autre plutôt qu'à son propre intérêt. Quel est le meilleur endroit pour apprendre cela? Ou mieux apprendre à faire preuve de patience, de sagesse, à construire sur de bonnes fondations, à apprendre le désintéressement et l'humilité par opposition à l'orgueil et à l'ambition égoïste? Ou mieux apprendre l'obéissance à Dieu, même lorsque nous pensons en savoir plus que lui ou mieux que lui concernant les rôles et le fonctionnement du mariage? Mais en réalité, lorsque nous pratiquons la voie de Dieu, cela fonctionne tellement mieux. Nous avons également l'occasion d'apprendre qu'aller bien au-delà de la ligne des 50 verges est la façon dont Dieu fait les choses, aller jusqu'au bout. J'espère que nous prendrons nos mariages au sérieux. Le mariage est un merveilleux cadeau que Dieu nous a fait. Ceux d'entre nous qui ont le privilège d'être mariés, et ceux qui le seront à l'avenir, doivent prendre ce privilège au sérieux et reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement de « ce que je veux », mais de la manière dont je peux montrer mon intérêt pour mon conjoint et pour ma famille.